Quatrième et dernière partie. L'offrande du miel. Et de nouveau, des mois et des années passèrent sur l'âme de Zarathoustra, et il ne s'en apercevait pas. Ses cheveux, cependant, devenaient blancs. Un jour qu'il était assis sur une pierre devant sa caverne, regardant en silence dans le lointain, car de ce point l'on voyait la mer bien loin par-dessus des abîmes tortueux. Ces animaux pensifs tournèrent autour de lui et finirent par se placer devant lui. « Ô Zarathoustra, dirent-ils, cherches-tu des yeux ton bonheur ?»« Qu'importe le bonheur, répondit-il. Il y a longtemps que je n'aspire plus au bonheur. J'aspire à mon œuvre. » « Ô Zarathoustra, reprirent de rechève les animaux, tu dis cela comme quelqu'un qui est saturé de bien. N'es-tu pas couché dans un lac de bonheur teinté d'azur ?»« Petits espiègles, répondit Zarathoustra en souriant, comme vous avez bien choisi la parabole. Mais vous savez aussi que mon bonheur est lourd et qu'il n'est pas comme une vague mobile. Il me pousse. » Et il ne veut pas s'en aller de moi, adhérent comme de la poix fondue. » Alors ces animaux pensifs tournèrent de rechève autour de lui, et de nouveau ils se placèrent devant lui. « Ô Zarathoustra, dirent-ils, c'est donc à cause de cela que tu deviens toujours plus jaune et plus foncé, quoique tes cheveux se donnent des airs d'être blancs et faits de chanvre. Vois donc, tu es assis dans ta poix et dans ton malheur. » Que dites-vous là, mes animaux ? S'écria Zarathoustra en riant. En vérité, j'ai blasphémé en parlant de poix. Ce qui m'arrive, arrive à tous les fruits qui mûrissent. C'est le miel dans mes veines qui rend mon sang plus épais et aussi mon âme plus silencieuse. Il doit en être ainsi, ô Zarathoustra, reprirent les animaux en se pressant contre lui. Mais ne veux-tu pas aujourd'hui monter sur une haute montagne? L'air est pur, et aujourd'hui, mieux que jamais, on peut vivre dans le monde. Oui, mes animaux, repartit Zarathoustra, vous conseillez à merveille, et tout à fait selon mon cœur. Je veux monter aujourd'hui sur une haute montagne, mais veillez à ce que j'y trouve du miel à ma portée, du miel des ruches dorées, du miel jaune et blanc et bon, et d'une fraîcheur glaciale. Car sachez que là-haut, je veux présenter l'offrande du miel. Cependant, lorsque Zarathoustra fut arrivé au sommet, il renvoya les animaux qu'il avait accompagnés et il s'aperçut qu'il était seul. Alors il rit de tout cœur, regarda autour de lui et parla ainsi. « J'ai parlé d'offrande et d'offrande de miel, mais ce n'était là qu'une ruse de mon discours et en vérité une folie utile. Déjà je puis parler plus librement là-haut que devant les retraites des ermites et les animaux domestiques des ermites. Que parlais-je de sacrifier ? Je gaspille ce que l'on me donne, moi, le gaspilleur aux mille bras. Comment oserais-je encore appeler cela sacrifier ? Et lorsque j'ai demandé du miel, c'était une amorce que je demandais. Des ruches dorées et douces et farouches dont les ours grognons et les oiseaux singuliers sont friands. Je demandais la meilleure amorce, l'amorce dont les chasseurs et les pêcheurs ont besoin. Car si le monde est comme une sombre forêt peuplée de bêtes, jardin des délices pour tous les chasseurs sauvages, il me semble ressembler plutôt encore à une mer abondante et sans fond. Une mer pleine de poissons multicolores et de crabes dont les dieux mêmes seraient friands, en sorte qu'à cause de la mer, ils deviendraient pêcheurs et jetteraient leurs filets, tant le monde est riche en prodiges grands et petits. Surtout le monde des hommes, la mer des hommes, c'est vers elle que je jette ma ligne dorée en disant « Ouvre-toi, abîme humain, ouvre-toi et jette-moi tes poissons et tes crabes scintillants. Avec ma meilleure amorce, j'attrape aujourd'hui pour moi les plus prodigieux poissons humains. C'est mon bonheur que je jette au loin. Je le disperse dans tous les lointains, entre l'Orient, le Midi et l'Occident, pour voir si beaucoup de poissons humains n'apprendront pas à mordre et à se débattre au bout de mon bonheur. Jusqu'à ce que, victimes de mon hameçon pointu et caché, il leur faille monter jusqu'à ma hauteur, les plus multicolores goujons des profondeurs, auprès du plus méchant des pêcheurs de poissons humains. Car je suis cela dès l'origine et jusqu'au fond du cœur, tirant, attirant, soulevant et élevant, un tireur, un dresseur et un éducateur, qui jadis ne s'est pas dit en vain « Deviens qui tu es ». Donc que les hommes montent maintenant auprès de moi, car j'attends encore les signes qui me disent que le moment de ma descente est venu. Je ne descends pas encore moi-même parmi les hommes comme je le dois. C'est pourquoi j'attends ici, rusé et moqueur, sur les hautes montagnes, sans être ni impatient ni patient, mais plutôt comme quelqu'un qui a désappris la patience, puisqu'il ne pâtit plus. Car ma destinée me laisse du temps. M'aurait-elle oublié? Ou bien, assise à l'ombre derrière une grosse pierre, attraperait-elle les mouches? Et en vérité, je suis reconnaissant à ma destinée éternelle de ne point me pourchasser ni me pousser et de me laisser du temps pour faire des farces et des méchancetés, en sorte qu'aujourd'hui j'ai pu gravir cette haute montagne pour y prendre du poisson. Un homme a-t-il jamais pris du poisson sur de hautes montagnes? Et quand même ce que je veux là-haut est une folie, mieux vaut faire une folie que de devenir solennel et vert et jaune à force d'attendre dans les profondeurs. Bouffi de colère à force d'attendre, comme le hurlement d'une sainte tempête qui vient des montagnes, comme un impatient qui crie vers les vallées « Écoutez, ou je vous frappe avec les verges de Dieu !» Non que j'en veuille pour cela à de pareils indignés. Je les estime juste assez pour que j'en ris. Je comprends qu'ils soient impatients, ces grands tambours bruyants qui auront la parole aujourd'hui ou jamais. Mais moi et ma destinée, nous ne parlons pas à l'aujourd'hui. Nous ne parlons pas non plus à jamais. Nous avons de la patience pour parler. Nous avons le temps, largement le temps. Car il faudra pourtant qu'il vienne un jour, et il n'aura pas le droit de passer. Qui devra venir un jour et n'aura pas le droit de passer? Notre grand hasard, c'est-à-dire notre grand et lointain règne de l'homme, le règne de Zarathoustra, qui dure 1000 ans. Si ce lointain est lointain encore, que m'importe, il n'en est pas moins solide pour moi. Plein de confiance, je suis debout des deux pieds sur cette base, sur une base éternelle, sur de dures roches primitives, sur ces monts anciens les plus hauts et les plus durs, de qui s'approchent tous les vents comme d'une limite météorologique s'informant des destinations et des lieux d'origine. Ris donc, ris, ma claire et bien portante méchanceté. Jette du haut des montagnes ton scintillant rire moqueur. Amorce avec ton scintillement les plus beaux poissons humains. Et tout ce qui, dans toutes les mers, m'appartient à moi, ma chose à moi dans toutes les choses. Prends cela pour moi. Amène-moi cela là-haut. C'est ce qu'attend le plus méchant de tous les pêcheurs. Au large, mon hameçon. Descends, va au fond, amorce de mon bonheur. Et goûte ta plus douce rosée, miel de mon cœur. Mort, hameçon, mort au ventre toutes les noires afflictions. Au large, mon œil. Oh, que de mers autour de moi. Quels avenirs humains s'élèvent à l'aurore. Et au-dessus de moi, quel silence rosé. Quel silence sans nuages. Le cri de détresse. Le lendemain, Zarathoustra était de nouveau assis sur sa pierre devant la caverne, tandis que ses animaux erraient de par le monde afin de rapporter des nourritures nouvelles, et aussi du miel nouveau, car Zarathoustra avait gaspillé et dissipé le vieux miel jusqu'à la dernière parcelle. Mais tandis qu'il était assis là, un bâton dans la main, suivant le tracé que l'ombre de son corps faisait sur la terre, plongé dans une profonde méditation, et en vérité ni sur lui-même ni sur son ombre, il tressaillit soudain et fut saisi de frayeur, car il avait vu une autre ombre à côté de la sienne. Et, virant sur lui-même en se levant rapidement, il vit le devin debout à côté de lui, le même qu'il avait une fois nourri et désaltéré à sa table, le proclamateur de la grande lassitude qui enseignait « Tout est égal, rien ne vaut la peine, le monde n'a pas de sens, le savoir étrangle ». Mais depuis lors, son visage s'était transformé. Et lorsque Zarathoustra le regarda en face, son cœur fut effrayé de rechef, tant les prédictions funestes et les foudres consumées passaient sur ce visage. Le devin, qui avait compris ce qui se passait dans l'âme de Zarathoustra, passa sa main sur son visage comme s'il eût voulu en effacer des traces. Zarathoustra fit de même de son côté. Lorsqu'ils se furent ainsi ressaisis et fortifiés tous deux, ils se donnèrent les mains pour montrer qu'ils voulaient se reconnaître. « Sois le bienvenu, dit Zarathoustra, devin de la grande lassitude. Tu ne dois pas avoir été vainement, jadis, mon hôte et mon commensal. Aujourd'hui aussi, mange et bois dans ma demeure. » Et pardonne qu'un vieillard joyeux soit assis à table avec toi. Un vieillard joyeux, répondit le devin en secouant la tête. Qui que tu sois, ou que tu veuilles être, ô Zarathoustra, tu ne le seras plus longtemps là-haut. Dans peu de temps, ta barque ne sera plus à l'abri. Suis-je donc à l'abri ? Demanda Zarathoustra en riant. Les vagues autour de ta montagne montent et montent sans cesse, répondit le devin. Les vagues de l'immense misère et de l'affliction. Elles finiront bientôt par soulever ta barque et par t'enlever avec elle. Alors, Zarathoustra se tut et s'étonna. N'entends-tu rien encore ? Continua le devin. N'est-ce pas un bruissement ni un bourdonnement qui vient de l'abîme ? Zarathoustra se tut encore et écouta. Alors, il entendit un cri prolongé que les abîmes se jetaient et se renvoyaient, car aucun d'eux ne voulait le garder, tant il avait un son funeste. « Fatal proclamateur !» dit enfin Zarathoustra. « C'est là le cri de détresse et l'appel d'un homme. » Il sort probablement d'une mer noire. Mais que m'importe la détresse des hommes ? Le dernier péché qui m'a été réservé, sais-tu quel est son nom ? Pitié, répondit le devin d'un cœur débordant et en levant les deux mains. Ô Zarathoustra, je viens pour te faire commettre ton dernier péché. » À peine ces paroles avaient-elles été prononcées que le cri retentit de nouveau, plus long et plus anxieux qu'auparavant, et déjà beaucoup plus près. « Entends-tu, entends-tu, ô Zarathoustra ? » s'écria le devin. « C'est à toi que s'adresse le cri, c'est toi qui l'appelle. Viens, 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 il est temps, il est grand temps. » Mais Zarathoustra se taisait, troublé et ébranlé. Enfin, il demanda comme quelqu'un qui hésite en lui-même, « Et qui est celui qui m'appelle là-bas ? » ?»« Tu le sais bien, » répondit vivement le devin. « Pourquoi te caches-tu ? C'est l'homme supérieur qui t'appelle à son secours. »« L'homme supérieur ? » cria Zarathoustra, saisi d'horreur. « Que veut-il ? Que veut-il, l'homme supérieur ? Que veut-il ici ?» Et sa peau se couvrit de sueur. Le devin, cependant, ne répondit pas à l'angoisse de Zarathoustra. Il écoutait, et écoutait encore, penché vers l'abîme. Mais, comme le silence s'y prolongeait longtemps, il tourna son regard en arrière, et il vit Zarathoustra debout et tremblant. « Oh, Zarathoustra, commença-t-il d'une voix attristée, tu n'as pas l'air de quelqu'un que son bonheur fait tourner. Il te faudra danser pour ne pas tomber à la renverse. Et si tu voulais même danser devant moi et faire toutes tes gambades, personne ne pourrait me dire « Regarde, voici la danse du dernier homme joyeux. » Si quelqu'un qui cherche ici cet homme montait à cette hauteur, il monterait en vain. Il trouverait des cavernes et des grottes, des cachettes pour les gens cachés, mais ni puits de bonheur, ni trésor, ni nouveaux filons de bonheur. Du bonheur. Comment ferait-on pour trouver le bonheur chez de pareils ensevelis, chez de tels ermites ? Faut-il que je cherche encore le dernier bonheur sur les îles bienheureuses et au loin parmi les mers oubliées ? Mais tout est égal. Rien ne vaut la peine. En vain sont toutes les recherches. Il n'y a plus d'île bienheureuse. Ainsi soupira le devin. Mais, à son dernier soupir, Zarathoustra reprit sa sérénité et son assurance comme quelqu'un qui revient à la lumière, sortant d'un gouffre profond. « Non, non, trois fois non !» s'écria-t-il d'une voix forte en se caressant la barbe. « Je sais cela bien mieux que toi. Il y a encore des îles bienheureuses. N'en parle pas, sac à tristesse, pleurard. Cesse de glapir, nuage de pluie du matin. Ne me vois-tu pas déjà mouillé de ta tristesse et aspergé comme un chien ? Maintenant, je me secoue et je me sauve loin de toi pour redevenir sec. Ne t'en étonne pas. N'ai-je pas l'air courtois ? Mais c'est ma cour qui est ici. Pour ce qui en est de ton homme supérieur, eh bien, je vais vite le chercher dans ces forêts. C'est de là qu'est venu son cri. Peut-être une bête sauvage le met-elle en danger. Il est dans mon domaine. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur ici. Et, en vérité, il y a chez moi beaucoup de bêtes sauvages. » À ces mots, Zarathoustra s'apprêta à partir. Mais alors le devin se mit à dire « Oh, Zarathoustra, tu es un coquin. Je le sais bien, tu veux te débarrasser de moi. Tu préfères te sauver dans les forêts pour poursuivre les bêtes sauvages. Mais à quoi cela te servira-t-il ? Le soir, tu me trouveras pourtant de nouveau. Je serai assis dans ta propre caverne, patient et lourd comme une bûche, assis là à t'attendre. Qu'il en soit ainsi, s'écria Zarathoustra en s'en allant. Et ce qui m'appartient dans ma caverne, t'appartiennent aussi à toi, mon hôte. Mais si tu y trouvais encore du miel, eh bien, lèche-le jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, ours grognon, et adoucis ton âme, car ce soir, nous allons être joyeux tous deux, joyeux et contents que cette journée soit finie. Et toi-même, tu dois accompagner mes chants de tes danses, comme si tu étais mon ours savant. Tu n'en crois rien, tu secoues la tête. Eh bien, va, vieil ours, mais moi aussi, je suis un devin. » Ainsi parlait Zarathoustra.